Bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 FM et l'émission ABC d'Évêque dédiée à la cause animale. Cette émission du mois de mai sera dédiée intégralement au Prix Maya et aux chroniques que Caroline Brasseau du site Le Temps d'une Chronique a écrit sur les ouvrages de la sélection 2025. Nous avions déjà eu l'occasion de diffuser des chroniques de Caroline Brasseau et nous allons consacrer cette émission à ces belles chroniques qu'elle a consacrées aux sélections du Prix Maya 2025. Alors pour rappel, le Prix Maya, c'est un prix littéraire animaliste qui est né à Tours et qui récompense chaque année depuis 2019 déjà les meilleurs ouvrages de fiction faisant avancer la cause animale dans trois catégories, la catégorie récit, la catégorie livre jeunesse et enfin la catégorie bande dessinée. Alors les lauréats de l'édition 2025 ont déjà été révélés et c'était le 30 mars dernier à Paris, à la librairie Utopia, par les membres du jury qui comprenaient cette année. Alors dans le jury, il y a Émilie Dardenne qui est professeure des universités en anglais et études animales et qui est aussi responsable du DU, diplôme universitaire animaux et sociétés RM2. Dans le jury, on trouve aussi Sophie Weiser, vétérinaire et vice-présidente de l'association Code Animal, une association nationale qui défend les intérêts, le respect et la liberté des animaux sauvages en captivité. On retrouve aussi Camille Silver, chargée de campagne pour L214, une association qu'on ne présente plus, Élodie Vieille-Blanchard, autrice et militante engagée pour les animaux et l'écologie, et enfin Pierre Lucot, responsable du pôle nature au mouvement Utopia. Le mouvement Utopia, c'est une association d'éducation populaire qui vise à élaborer un projet de société solidaire, écologiquement soutenable et convivial. Alors, les lauréats du Prix Maya sont donc pour cette année 2025, dont je vais vous les donner. Dans la catégorie récit, c'est Première Plume, paru aux éditions Métellier de l'auteur anglais Charlie Gilmour, qui a été récompensé. Le meilleur ouvrage jeunesse et Tino, un merle au jardin de Nicolas Joliveau, publié aux éditions Onfay. Enfin, dans la catégorie bande dessinée, le jury a récompensé S'il te plaît, dessine-moi un cachalot de Pomme Bernos et François Sarano, bande dessinée publiée chez Actes Sud. Alors, les récompenses du Prix Maya 2025 seront remises au lauréat à Tours le 28 juin prochain lors de la Vegan Place de Tours en présence des membres du jury et de la marraine du Prix Maya, l'artiste, illustratrice et militante Florence Delry, que nous avions déjà eu l'occasion de recevoir dans l'émission. Les récompenses seront remises plus particulièrement lors d'une conférence exceptionnelle qui réunira au Vinci Peter Singer et Paul Watson. Alors Peter Singer, lui, c'est un philosophe australien, titulaire de la chaire d'éthique à l'université de Princeton et auteur du classique La libération animale qui est paru en 1975 et qui a fortement influencé les mouvements modernes de défense des droits des animaux. Paul Watson, lui, vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est un militant écologiste, fondateur de Sea Shepherd, une ONG qui défend les écosystèmes et les animaux marins. Alors, vous l'aurez compris, il se passera beaucoup de choses intéressantes le 28 juin à Tours lors de la Vegan Place. Et nous y serons avec Radio Campus Tours comme tous les ans, en proposant un plateau radio avec des tables rondes, dont une où nous recevrons les lauréats du Prix Maya 2025. À vos agendas donc. Alors, pour l'heure, nous allons commencer la première partie de l'émission à l'écoute des chroniques que Caroline a consacrées aux trois ouvrages lauréats du Prix Maya 2025. Merci à elle pour ces belles chroniques et bonne écoute.
Première plume de Charlie Gilmour aux éditions Métayer. Première plume est avant tout une histoire de père et d'oiseau, un récit autobiographique, introspectif, qui vous habite longtemps. Fils biologique de William Hiscott, poète enragé excentrique, et fils adoptif du guitariste de Pink Floyd, Charlie Gilmour trempe sa plume dans un passé obsédant pour encaisser le présent et préparer l'avenir. Une pie tombée du nid dans une case de voiture londonienne va bouleverser le quotidien de cette âme blessée dans une joyeuse pagaille salvatrice. Voilà une histoire habitée par la grâce où chaque interaction avec l'oiseau adoucit l'insoutenable absence d'un père allergique au mot famille. Cette boule de plumes noires et blanches aux reflets chromes de la taille d'un poing d'enfant envahit en deux battements d'ailes l'existence de Charlie et Yana, épouse solide et réparatrice de tout ce qui est détraqué et fissuré, animaux, humains ou objets. Le jeune marié est confronté à un faisceau de pensées insaisissables, celle de la pie, renommée Benzen, de ce père, inapte à la société, et enfin les siennes, terrifiantes, qui lui échappent et qu'il cherche à amortir et à mettre en veilleuse à l'aune de la folie. L'oiseau moqueur, lui, est un esprit brillant, scintillant, volatile, à la queue irradiée de reflets moirés, éduqué comme un prince médiéval. Entouré de ses deux humains corvéables à merci, il reçoit des fleurs, de la musique, des breloques brillantes et de la viande. Un individu à part entière. 30 ans plus tôt, c'est Hiscott, inadapté chronique, génie triste et dérangé, qui fera d'un chouka des tours son compagnon d'infortune. Deux corps vidés qui, sans le savoir, retisseront des liens de filiation distendus par la maladie et le temps. Devant la vastitude du monde et toutes les occasions qu'elle a de partir, cette élégante dame, drapée dans une cape de soie noire et d'hermine blanche, décide de rester, comme missionnée le temps qu'il faudra jusqu'à une hypothétique embellie rédemptrice. Avec son bec, perpétuellement inquisiteur, elle remet de la joie où il n'y en avait plus et dévoile un trésor oublié au sein d'une famille foutraque. Cette créature chaotique, inquisitrice, destructrice, perfide et roublarde, qui prend un malin plaisir à secrètement remplir les génoises de mouches estropiées, tout en prononçant son premier mot humain, Trump, réinjecte une joie pure dans cette maison trop longtemps désertée par la légèreté. Si l'on fait abstraction de John, qui essaye discrètement de retirer une infâme bouillie de gélatine et de fragments d'insectes de sa manche avec une petite cuillère, c'est un tableau joyeux de famille. La queue de l'oiseau est une baguette magique d'émeraude et d'or, tissant des charmes dans l'air. À l'image de la mue de Benzen et de ses plumes de sang, c'est aussi Charlie qui se régénère. Avec l'oiseau agrippé à son poignet, la voix revancharde qui résonne dans sa tête est réduite au silence par le seul battement de ses ailes. La pie est compagne, muse, accompagnatrice de deuil, chasseuse de mouches, attrapeuse de souris. L'humain, lui, est perchoir mobile, chaise à porteur, distributeur de nourriture, dompteur de chats importuns, bipède déplumé géant. Un pas radical vers une forme de normalité ne serait-il pas de reconnaître que le monde a un pouvoir sur nous et d'accueillir enfin notre vulnérabilité? Chouka et Pie sont-ils vraiment des oiseaux de malheur? Après tout, les malédictions ne sont peut-être que des bénédictions déguisées. La folie n'est pas héréditaire. On ne peut se couper de son passé, mais en creusant, on arrive à extraire du pouvoir de ses racines pour les laisser sécher à l'air libre. Un nouvel avenir pour Charlie et Yana est-il envisageable? Un battement d'ailes, peut-être. Charlie Gilmour évite les écueils de ce genre de récit grâce à sa franchise. Il ne cache rien de son séjour en prison, ni de son addiction à la drogue et sa pudique retenue. En explorant la mémoire, il sonde les pénombres et tente de suturer de vieilles plaies en faisant la part belle à une vibrante émotion. On sent les plumes gonflées sous un sèche-cheveu ou ce courant d'air froid dans la nuque qui annonce un départ. Cette étoile noire qui décrit un arc par-dessus le lac pour gagner le violet fumé des bois ressemble à l'étoile du berger. En lice pour le prix Maya 2025, ce roman d'apprentissage, de filiation et de transmission est un rappel discret de l'attention que l'on se doit de porter aux autres comme à soi-même, sans toutefois y sacrifier sa liberté. Charlie Gilmour passe avec un naturel renversant de la gravité à l'autodérision, à la drôlerie la plus touchante, avec une impression de facilité totalement déconcertante. Pour révolutionner une pensée noire et instable, le remède n'est-il pas de penser comme un autre que soi? Un oiseau, par exemple? Après tout, Benzen est juste un oiseau comme les autres, et aucun oiseau ne sera plus jamais juste un oiseau. Dino, un merle au jardin, de Nicolas Joliveau, aux éditions Hangfei. Le mot chinois Hangfei, emprunté à un poème du XIe siècle, signifie « grand oiseau en vol ». En voyageant librement à l'est et à l'ouest, il survole des montagnes enneigées et y laisse des empreintes sans s'y attacher. Seul, le regard de ceux qui les trouveront leur donnera du sens. Une belle métaphore pour parler de la vie. Pas de hasard donc, si la singulière rencontre entre l'éditeur du même nom et l'auteur qui décide un jour de vouer une année entière à l'observation d'un merle siffleur donne vie à ce somptueux ouvrage « Tino, un merle au jardin ». Une biographie illustrée sur celui qui a chassé, becqueté, beaucoup chanté, aimé, copiné, volé, défendu plumes et griffes son territoire, sous le regard inspiré de Nicolas Joliveau, carnétiste saumurois bien connu pour ses ouvrages multi-récompensés. « Un merle vit dans mon jardin, à moins que ce ne soit l'inverse », murmure l'auteur. Dès lors, nuit et jour seront consacrés à l'étude de l'individu, de Tinette, sa compagne Merlette, et de Toto, le petit merlot. Le résultat sur le papier est grandiose, dans un mélange de dessins hyper réalistes et de peintures dignes des plus grandes planches d'ornithologie. Attention, la spécificité de ce récit tient dans l'expérience exceptionnelle inédite, non pas de l'observation naturaliste d'un spécimen dans son milieu, mais bien de la fréquentation attentive et quotidienne d'un individu dans son existence. De quoi largement remplir 120 pages d'illustrations uniques, regroupées dans un ouvrage relié élégant qui fait honneur aux merles, sans oublier des textes savoureux, instructifs, sous-tendus par un émerveillement permanent. En harmonie avec le solstice d'hiver et le solstice d'été, humains et oiseaux vivent au rythme d'une nature qui croît, fructifie ou se repose. Une forme de prolongement d'un voyage immobile déjà entamé lors d'un précédent et très remarqué ouvrage sur le jardin où l'auteur se sent vivre par instant en merle. En rentrant dans l'intimité de la petite famille aux chants si purs, en écoutant la complexité de leurs discussions, en partageant leur vie de tous les jours, il déclare « J'ai ressenti à la fois cette force inouïe de résistance transmise depuis la nuit des temps, ce caractère opiniâtre qui nous semble évident, et à contrario, cette fragilité face aux prédations et aux maladies du quotidien. » En reconnaissant cette silhouette et ses tris si personnels, il assure que l'oiseau lui-même le reconnaît en retour. Au seuil de cette charmante cohabitation, il a cette sensation diffuse de n'être qu'à l'aube d'un dialogue où chacun comprendrait l'autre tout en tenant sa place au commencement d'une connaissance plus intime d'un autre monde que le sien. Nicolas Joliveau nous offre un voyage inattendu, contemplatif, surprenant et émouvant. On apprend 1000 choses sur les merles et on comprend Tino. Un contact puissant vers une autre espèce que la nôtre vient d'être établi avec ce message on ne peut plus clair. Nous sommes les cohabitants d'un monde où l'avenir appartient aux merles qui se lèvent tôt et à l'humain qui les observe. On se sent accompagné et accueilli dans cette connexion à un vivant si proche, chaque jour plus familier, mélange de complexité et de prouesse, de fragilité et de résistance. Ces dessins ouvrent la voie à l'émerveillement et au goût du temps long, de celui qui passe sans que l'on se lasse. Un éloge au plaisir de la réjouissance et du ravissement, de cette possibilité d'entrer en connexion au cœur d'une nature dont nous, humains, sommes de plus en plus éloignés. Avec ce chant sonore et flûté, ce petit torse bombé et ses plumes plaquées en arrière sur la tête comme passées à la gomina, Tino roule des mécaniques et fait un peu sa loi. Tout est prétexte à l'observer et se laisser surprendre, être là. Le savoir-faire incroyable de Tino pour boulotter 3 vers de terre en moins d'une minute, son amourette avec Tinette, son costume noir de plumes molletonné pour affronter l'hiver, son envol à tire-d'aile pour protéger le domicile conjugal. Parfois, les 300 mètres carrés du jardin ne lui suffisent plus. Il furette alors chez le voisin, mais jamais plus d'une heure, et revient sur son territoire, sachant en permanence montrer sa force sans avoir à en user. Le corps vif, le bec presque rouge, il en impose le kéké. Tinette, elle aussi, sait chasser les importunes de son précaré. Les deux font la loi et la paire. Niché dans un chèvrefeuille du Japon ou recouvert d'un lierre grimpant, planqué dans un prunier ou en haut d'un figuier, posant au milieu des tulipes et des primes verts, veillant au grain en haut d'une sapinette blanche ou surveillant le chat du voisin, Tino investit chaque branche et sait s'entourer. d'autres congénères rentreront en scène. Chardonneret, étourneau, fauvette, pie, mésange, pigeon, rouge-gorge. L'occasion de rajouter de nouvelles taches de couleur à cet envoûtant ouvrage. Rien n'arrête l'humain rêveur, le pinceau à la main. Il sait s'approcher en douceur des nichées ou déléguer à une tierce personne l'observation du jardin quand il dessine. Suivre pendant un an la vie d'un merle n'a rien de reposant. Ce voyage dans son jardin est aussi l'occasion d'une introspection bienvenue. S'asseoir sur la dernière marche du perron pour regarder la cour de haut et tous ses petits détails, comme un besoin d'un lieu précis qui ressource et permet de ne pas perdre le fil du temps. À l'image de Tino, qui chaque soir sur sa branche chante à tue-tête. En lice pour le prix Maya 2025, les éditions Hongfei viennent de pondre un ouvrage inédit et émouvant de très belle facture, digne des plus grands témoignages naturalistes. Destiné aux petits et grands, il sensibilise à l'approche contemplative de tout ce qui nous entoure. Et si ce chant de merle, empli de certitude, était une promesse d'avenir dans une humanité cacophonique ? S'il te plaît, dessine-moi un cachalot, un livre de Pomme Bernos et François Sarano, paru aux éditions Actes Sud. Quand l'éditeur Actes Sud décide de réunir l'océanographe de renom François Sarano et une talentueuse jeune illustratrice et graphiste Pomme Bernos, l'alchimie est immédiate et le résultat tout simplement bouleversant. En effet, cette bande dessinée, ou plutôt ce récit documentaire scientifique dessiné, déploie sous nos yeux un univers absolument fascinant et méconnu, celui du cachalot. C'est le fruit d'une collaboration étroite qui rend cet ouvrage unique. S'il te plaît, dessine-moi un cachalot, paraît dans la collection bien nommée Monde Graphique. Pomme Bernos n'a jamais vu de cachalot de sa vie, et cet univers la fascine, ainsi que les plongées abyssales de François Sarano, compagnon de route au long cours du commandant Cousteau. Cet ouvrage a trouvé l'expression graphique la plus adaptée pour nous ouvrir les portes du royaume de ce cétacé si placide. L'immersion est sensible, poétique, drôle, la fraîcheur inimitable et le style faussement naïf. Voilà pour la forme. Le tout imprimé en grand format sur des pages en carton de qualité qui encouragent le lecteur à la lenteur. Prendre le temps de tourner les pages, car ce qui se déroule sous nos yeux relève de la chance. Judicieux choix. Oui, se sentir convié à découvrir les analyses, les enquêtes, les comptages, les plongées d'un des plus grands océanographes au monde est une chance, qu'on se le dise. Il y a autant de nuances de bleu que l'océan ne peut en contenir dans ses dessins. Et pour que petits et grands y trouvent leur compte, l'humour affleure à chaque planche. Le fond, lui, est alimenté par des documentaires scientifiques, des relevés, des dessins, des centaines d'heures de plongée à explorer le monde du clan d'une famille de grands cachalots. Le clan d'Irène Gueule Tordue, à l'ouest de l'île Maurice, dans l'océan Indien. François Sarano rêve que l'on essaye de se mettre à la place du cachalot pour que nous, humains, puissions mieux le comprendre et donc le protéger. Bien sûr, notre manière d'homo sapiens de penser nous empêche d'accéder à leur monde. On ne peut donc que tenter d'imaginer ce que l'autre imagine. Faire l'effort d'essayer est déjà un premier pas vers l'animal, celui qui n'est pas de notre espèce et qui pourtant ressent, vibre, aime, caresse, souffre tout autant que nous. Certes, il pèse plusieurs tonnes, mais les barrières s'arrêtent là. En 18 chapitres matinés de références littéraires et cinématographiques, Pomme Bernos entame son périple sur le chemin de la découverte et nous embarque avec elle. Ses premiers mots en préface sont très clairs. Le projet est ambitieux, car elle n'y connaît absolument rien en cétacé. Le premier chapitre, en référence au Petit Prince, nous dévoile de maladroites esquisses de l'animal. Comment dessine-t-on correctement un cachalot ? Petit à petit, différents scénarios de dessin prennent vie. La dessinatrice se balade dans ses hésitations et ce qui pourrait se révéler fastidieux à la lecture devient passionnant tout de suite. On la suit dans son tracé de dessin. On se dit « Oui, j'aurais fait comme ça. Ah, pas moi. » Son dessin est participatif et nous invite d'emblée, dès la première planche, à se questionner, sourire, s'émerveiller. C'est magique. C'est en 2013, invité sur le tournage du documentaire « Bon baiser » de Maurice, que François Sarano rencontre un cachalot bien téméraire, plus tard renommé Elliot. De ce face-à-face inoubliable, l'océanographe en ressort ébahi, bouleversé. Sous la surface de l'océan, se jouent des rencontres singulières, une intimité. Pendant 10 ans, il n'aura de cesse de plonger, jour après jour, année après année, et tout ce qu'il verra l'éblouira. Et beaucoup de choses qu'il a vues sont dans cet ouvrage. La vie prend forme sous la plume de Pomme Bernos. Une très grande partie des vidéos, des dessins sous-marins, des relevés scientifiques, des notes, des ressentis, des commentaires de toute l'équipe de chercheurs est reprise en dessin qui marque instantanément la rétine et le cœur. On se surprend à sourire, rien n'est figé. Les dessins, petits et grands, alternent avec le texte relevant soit du scientifique, soit des propres émotions de la graphiste même, qui ne manque jamais un clin d'œil amical à François Sarano. On est témoin d'une conversation à plusieurs, on plonge littéralement dans les profondeurs, on observe les ondulations kaléidoscopiques de la peau de l'océan sur le dos de la bête, qui, quand l'envie lui prend, fend les profondeurs non pas sur le ventre, mais sur le dos, nageant à l'envers, peut-être pour mieux voir la surface de l'eau, le soleil, ou cette silhouette familière de plongeur qui vient à sa rencontre. Des origines du cétacé et de ses ancêtres à leurs spécificités physiologiques, de l'évolution de leur espèce et des dangers auxquels ils ont été confrontés, tout est abordé, décrypté, retranscrit avec soin. Un cachalot dort en chandelle, passe une grande partie de son temps à remonter à la surface de l'eau pour respirer, donc pour vivre. Souhaitons-lui de faire des rencontres chaleureuses et bienveillantes plutôt que des harpons vengeurs et morbides. La poésie émane des mots du plongeur François Sarano. On dirait un cahier de dessins d'élèves très appliqués qui, ayant trop de mots et d'émotions dans sa tête, décide de les incarner sous une plume attendrie, stupéfaite, admirative. Comme l'immense talent est là, le lecteur, petit ou grand, trouvera dans cette formidable Bible du savoir cachalot l'occasion unique de rêver, de tenter de comprendre, de sensibiliser. Une contemplation et une exploration qui ne laisseront personne indifférent. Des centaines d'heures sont nécessaires à l'équipe qui patiente en surface sur un petit bateau. Une attente infinie dans l'espoir infime de repérer les cachalots dans la démesure océanique. Rien n'est simple, ni acquis, et tant mieux d'ailleurs. Le sauvage le reste, ce qui ne l'empêche pas d'approcher et de se laisser approcher. La sidération est de mise quand une plongée révèle une douzaine de monolithes en lévitation à la verticale de l'eau qui dorment. C'est le silence absolu. La matriarche du clan observé s'appelle Irène Gueule Tordue. Plongée après plongée, d'observation en relevé, l'équipe a tout noté, photographié, décrypté. En tout, plus de 100 cartes d'identité. Les reconnaître chacun était la clé pour rentrer dans leur monde, et ils y sont arrivés. Miss Totou est un peu jalouse quand Lucie est protectrice. Arthur, le malingre, est farouche quand Elliot, le curieux, est exubérant. Expliquer la génétique en dessin n'est pas chose aisée. Avec Pomme Bernos, tout devient jeu et tout devient limpide. La forme graphique est bien plus parlante qu'une suite de chiffres abscons. Sous l'eau, le danger vient des globicéphales qui attaquent les cachalots. Les caudales de ces derniers emportent des stigmates bien visibles et très nombreux. Sur l'eau, c'est l'homme le prédateur. un cachalot sicilien empêtré à la cristo dans un filet de pêche, un autre paralysé par les cordages d'une bouée, un autre encore échoué, dont l'autopsie révélera une boule compacte de plus de 100 kilos de déchets en plastique dans l'estomac. C'est moins beau qu'une compression de César, et c'est mortel. Comment les cachalots se repèrent-ils sous l'eau? Qu'y a-t-il dans les fosses océaniques? Sur cette planète, chacun son langage, et étudier la signature vocale et sonore des cachalots se décline en clics et codas, une histoire de son. Si François Sarano tente d'imiter le cachalot en collant sa langue contre son palais pour la faire claquer à un rythme saccadé, la graphiste se demande bien comment traduire du son en dessin. Il lui reste à nous révéler la partition du monde des cétacés. Les toccatas et fugues en clics majeurs, une fois de plus mise en dessin, s'avère payante et vertigineuse. Pour chacun des 5 sons existants et de durée différente, il existe une interprétation. Tout n'est qu'hypothèse, rien n'est certain. L'équipe scientifique élabore des scénarios. Seul, Arthur, le farouche et mutique cachalot, se tait. Aucun son ne sort de son melon. Le mystère reste entier. L'ouvrage continue son exploration ludique, sérieuse, exhaustive, en passant au crible les techniques de chasse et le menu du cétacé. Des balises sur une femelle permettent de la suivre dans ses plongées en silence jusqu'à 1100 mètres de profondeur pour rejoindre la zone des calamars, y rester une vingtaine de minutes, puis remonter et redescendre et remonter sans cesse. Diantre, quel labeur! Elle passe sa vie à chasser. L'umwelt de l'animal, son environnement, est fort différent du nôtre. Là où nos yeux ne distinguent rien, le cachalot, lui, voit avec ses oreilles. Un chien perçoit des nébuleuses d'odeurs aussi visibles que des nuages, alors que notre nez reste bien démuni face à ce camailleux de sensations. Chacun sa perception du monde. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de cet ouvrage. Révélé par des dessins se basant sur des études scientifiques, des pans de vie d'un animal qui fascine depuis la nuit des temps. En faire un régal de lecture, la vie d'un clan, les étapes d'une gestation, les amours de fond d'océan, l'histoire d'Eliot qui n'étant que bébé est directement venu à la rencontre du plongeur en 2013. 3 ans après, ce même Eliot est venu la gueule ouverte au contact du bateau avec un hameçon coincé dans la mandibule, demandant de l'aide aux humains. Eliot est unique, un peu comme un Marco Polo des cachalots. Lui et sa curiosité exceptionnelle. À lui seul, il pourrait repousser les frontières cognitives de l'espèce cachalot. Il est différent, et selon l'océanographe, si lui l'est, ils le sont tous, non ? Unique, singulier, formidable et irremplaçable. Et nous, êtres humains, avons cette responsabilité colossale à l'égard du vivant. La danse que vont se livrer Eliot et le plongeur au large de l'île Maurice en 2015 déploie dans une émotion saisissante deux espèces différentes qui s'adoptent, s'adaptent, se comprennent. Quand l'un se roule sur le ventre, l'autre fait de même, puis sur le dos. Quand à son tour le plongeur vrille sur lui-même, c'est Eliot qui imite la pirouette. Un instant intense, pur, originel, miroir de la communion avec le monde. À la fin du livre, des QR codes de visionnage de vidéos de l'association Longitude 181 donnent encore une autre dimension à notre plongée. Nous avons eu la forme et le fond, et maintenant nous avons le son et le mouvement. Cet ouvrage est puissant et original. La tâche était ardue. L'objectif de nous faire pénétrer dans le monde du cachalot est totalement atteint avec une dimension inattendue. Une émotion puissante a balayé la lecture de ces 18 chapitres. Les centaines de petits et grands dessins, certains drôles et d'autres majestueux, alliés à la poésie attendrie de François Sarano, transforment notre regard à jamais. Bien plus qu'un livre, c'est un splendide outil de connaissance destiné aux petits et grands humains. ne reste plus qu'à attendre avec une impatience non maîtrisée le prochain ouvrage. Irène, gueule tordue, la dévouée, a quelque chose à nous dire au nom du grand peuple des cachalots. Nous terminerons avec elle. Cher Coloca, terre, humain, ce livre s'achève, mais l'histoire de notre clan ne s'arrête pas là. Elle se poursuivra longtemps et longtemps encore, bien après que nos rencontres auront pris fin, bien après que les rencontres avec vos successeurs auront pris fin. Cette aventure nous surpasse totalement. C'est celle de notre planète vie. Cependant, elle dépend beaucoup de vous. Car parmi tous les êtres vivants qui peuplent notre Terre-océan, vous êtes les seuls à avoir les moyens de détruire sans harmonie. Mais vous êtes également les seuls à avoir conscience de sa singularité exceptionnelle, de la majesté de son histoire, de la diversité éblouissante des créatures qui la peuplent. Vous êtes les seuls à appréhender l'irréversibilité du temps et de la mort. Vous êtes les seuls à pouvoir imaginer ce que pourrait être le futur de l'aventure de la vie, effroyable ou harmonieux. Vous êtes les seuls à pouvoir en décider parce que vous avez la liberté d'agir en pleine conscience. C'est cette liberté d'agir en toute connaissance de cause qui fait de vous des créatures à part. C'est cette différence géniale qui vous impose la responsabilité de regarder le futur en face et de choisir qui vous voulez être. Car c'est à l'aune du respect que vous aurez envers vos frères humains et non humains que vous construirez votre humanisme qui fait pleinement de vous des sapiens.
Push off, this is the new love, killing a white dove just for the story.
Vous écoutez toujours Radio Campus Tour et l'émission ABC des Vagues. Alors, lors de la pause musicale qui vient de se terminer, vous avez pu écouter le morceau Animal du groupe anglais Lump. Alors, dans cette deuxième partie d'émission, nous allons continuer à écouter des chroniques de Caroline Brasseau consacrées à la sélection du prix Maya 2025. Vous allez découvrir quatre nouveaux ouvrages qui, je l'espère, vous donneront l'envie de lire. Donc ça, c'est quatre ouvrages, on ne sait pas les lauréats, mais c'est des quatre ouvrages très intéressants. Donc les quatre ouvrages en question dont vous allez découvrir les chroniques de Caroline, il y a d'abord « Frappe à bord » de Mireille Gagné, ensuite « Corps de ferme » de Agnès de Clerville, « Parle-moi » de Tissy Boyle et enfin « L'ours des Hauts-Roquennes » de Black Rennes et J.U.R. Alors bonne écoute et rendez-vous en juillet pour la diffusion des tables rondes enregistrées en public lors de la Vegan Place du 28 juin prochain. On espère vous y voir nombreux et nombreuses. À très bientôt.
Frappe à bord du Mireille Gagné, édition La Peuplade. Au Québec, un frappe à bord est le nom générique d'une variété de mouches dont la piqûre vous percute comme un coup de poing. Hématophage, elle se nourrit exclusivement de sang et elle peut être rancunière et très remontée. Comme dans ce roman polyphonique, dystopique et glaçant, dans lequel Mireille Gagné se veut la voix d'une nature en colère qui subit, qui ressent et enfin se venge. En 1942, des essais scientifiques tenus secrets se déroulent sur Grosse Île, dans l'archipel du Saint-Laurent. Pour participer à l'effort de guerre face à l'ennemi, l'armée réquisitionne Thomas, jeune entomologiste canadien, suite à un ordre officiel de mobilisation. Sa mission ? Modifier la génétique des frappes à bord en armes biologiques redoutables et propager des épidémies par la voie des airs. Une menace bactériologique dans un corps d'insectes. La boîte de Pandore est ouverte. En 2024, à Montmagny, petite bourgade canadienne faussement tranquille, Théodore part chaque jour à l'usine, le cœur déserté par l'entrain, courbé sous une existence futile. Il subit comme tout le monde une canicule de plein fouet et les assauts répétés d'une prolifération de temps et de mouches dans cet appartement où aucun répit ne semble possible. Mu par une torpeur inexpliquée dans un contexte de grande violence sociale, rien ne semble l'intéresser, à part peut-être ce grand-père dont la ligne de temps semble avoir perdu de son étanchéité et qui ne cesse de lui parler d'un passé chaotique. Quelle mouche a piqué l'humain ? En tissant les destinées d'une femelle frappe à bord et de ses deux humains par-delà les siècles, Mireille Gagné nous met en garde contre nos agissements face à une nature que nous malmenons tant, à l'image d'un savant fou débordé par sa création. Elle replace l'humain dans la chaîne alimentaire qui serait à son tour proie et non plus prédateur. Le climat de tension apocalyptique totalement maîtrisé infuse crescendo. Depuis un temps considérable, vous ne captez plus le subtil entre les êtres, ce qui nous procure tout un avantage, dit la femelle frappe à bord, prise d'un exquis coup de foudre pour Théodore, donnant lieu à deux pages cultes d'extase interespèce. Sous son charme, oui, mais empli d'une rage accumulée au fil des années envers l'espèce humaine. Sur l'île, le niveau de contamination croisée est devenu trop élevé entre les recherches sur l'anthrax, des vaccins contre la peste bovine et les manipulations génétiques sur les insectes. Thomas n'aura pas discuté les ordres, mais les effets délétères seront devenus hors de contrôle. Vecteur mortel. Le roman s'ouvre sur un temps vorace et altéré de sang, parlant à la première personne en pleine chasse à l'homme, à la recherche d'une peau à l'odeur acidulée et épicée. Le ton est donné. À notre peur d'un virus mortel qui se répandrait comme une traînée de poudre, se rajoute celle des insectes qui se multiplient, grouillent, se faufilent dans le moindre interstice. Les mouches, manipulées en 1942 par un Thomas naïf, prennent leur revanche en 2024 sur un Théodore morose, étourdi par une touffeur accablante. L'épidémie de rage est dans la place, grandissant à vitesse grand V. La nature se rebelle et le désir d'infliger des souffrances face à l'humanité indigne gronde d'une manière sourde et terrifiante. Vous êtes partout, vous ne pensez qu'à vous. Votre odeur chimique trop puissante se répand avec la pollution que vous générez. Vous défigurez tout sur votre passage. Vous ne prenez pas la peine d'effacer votre trace. Au contraire, c'est votre unique manière de vous exprimer. Avec cette maîtrise parfaite d'un scénario catastrophe où l'angoisse pulse à chaque bruissement d'aile, Mireille Gagné dessine les contours d'un partenariat destructeur menant à la haine et au chaos dans cette éco-fiction diablement efficace. Frappe à bord, en lice pour le prix Maya 2025, pose une question cruciale au risque de nous démanger encore longtemps. Au lieu de se nuire mutuellement, comment pourrait-on s'unir ? Une sorte de diplomatie interespèce. Cette mouche de l'Anthropocène est une entrée en résonance avec l'imaginaire d'une époque fascinée par sa puissance, mais aussi terrifiée par un avenir dans lequel elle ne sait plus lire que des promesses de déclin. Mais tout n'est pas perdu, reste à retrouver un équilibre. À moins qu'en 2028, la fonte du permafrost ne vomisse d'anciens fantômes prêts à attaquer. Vous ne sentez pas comme une démangeaison derrière l'oreille ? Corde ferme, Agnès de Clerville aux éditions HarperCollins. Dans ce roman polyphonique ultra-sensoriel, les animaux, vigies d'une existence rythmée par la vie et la mort, prennent la parole à la première personne. Une tragédie accourt dans une exploitation agricole et personne n'en sait rien. Les humains ont perdu tout goût de la communication et de l'attendrissement dans ce huis clos à ciel ouvert. Les bêtes prennent la relève et témoignent à leur place. Tantôt sensuel, douloureux, vivant, affaibli, expressif ou atone, ce corps vit au rythme non pas des saisons, mais des drames qui s'y déroulent. Bonjour, veaux, vaches, cochons, chats et pies. La fermière n'est pas aussi guillerette que Perrette, avec son ventre plein et un chagrin qui déborde. Le fermier, de son pas lourd, ploie sous une menaçante épée de Damoclès, et les deux garçons, eux, poussent vite et de travers. L'amour n'est pas dans le pré, l'animal machine. La chienne épagneule, dressée pour la chasse, observe les vaches ravagées par l'arrachement. Quand on prend leur veau, les vaches chargent, même si elles n'ont plus de cornes. Elles courent comme des génisses, sans la joie. Leur plainte envahit l'air froid, traverse le pré, frappe les carreaux de la ferme, s'insinue dans les oreilles. Elle devient un bourdonnement qui empêche de penser à autre chose, qu'à cette mère qui appelle son veau. Je n'aimerais pas ça qu'on me prenne mes petits. Et pourtant, ces chiots seront vite dehors, vite grandis et vite partis. Les cris des bêtes se mêlent aux douleurs silencieuses des humains. Aucun nom ne leur est donné, comme si les nommer, c'était prendre le risque de s'attacher. Hormis Pétunia, prénom de la vache pie noire, une seule fois mentionnée. Tous ces êtres vivants, humains et non humains, se croisent, se touchent, se frôlent dans un brouillard épais. L'humain détourne les yeux, ne veut parfois plus avoir affaire à la bête qui souffre et qu'il faut abattre. L'animal va naturellement au contact du fermier taiseux, de la fermière qui erre la nuit hébétée, de ces deux garçons qui subissent. L'un crie, l'autre dessine, à chacun sa manière de tenir le malheur à distance. L'animal médiateur et consolateur. Si le chat, en quête constante de nonchalance et de satiété, semble échapper à l'amorosité, il n'en est pas moins l'un des premiers spectateurs. Tour à tour confident des peines du dernier-né, ses bons souples l'amènent toujours à distance des éclats de voix et des insultes qui fusent et qui lui électrisent le poil. Sa tiédeur féline, son corps langoureux, sa lente élasticité calment le petit dernier, à l'origine d'une drôle de découverte dans la porcherie, chronique d'un drame annoncé. Dans la chambre des adultes, la femme allongée, les yeux grands ouverts, a le sommeil brisé. Le chat raconte. Nous veillons ensemble jusqu'au petit matin, sphinx de pierre, devant une odalisque de marbre. La chienne pose doucement sa tête sur la cuisse tendue de son maître dépassé par les événements. Elle le vénère plus que tout et ne veut ni ne peut le décevoir. Sa placidité apaise aussi les cochons bien énervés. La vie à la ferme, une existence vouée au labeur. La colère du monde agricole étreint Agnès de Clerville depuis de nombreuses années, qui éprouve toujours la même indignation, moteur de ce roman brut. Plusieurs menaces pèsent sur le corps de ferme et le corps de la femme, tous deux dans le même qui-vive. Avec un grand sens de l'observation et une distance poétique élégante, elle tisse une réflexion puissante sur la maternité et notre rapport au vivant. Pour prendre de la hauteur face aux drames cachés et aux douleurs tues, la pie trône en haut du peuplier au bord du chemin et fuit la rudesse des lumières et des sons et les éclats des humains en bas. Elle aussi prend la parole. Le fermier n'est pas un méchant homme. Il s'acquitte du travail de la ferme sans état d'âme. Ça suppose parfois de jeter un cadavre de veau au milieu de la cour et d'y ajouter parfois une portée de chatons massacrés de temps en temps. Traversé par des courants froids et sans pitié, ce roman à fleur de peau loue aussi la résilience, le courage, la peur et les joies simples que seuls les animaux semblent ressentir. Se rouler dans l'herbe, faire des sauts de cabri dans le pré alors que l'on est veau, dérouler nonchalamment sa queue de chat pour endormir l'enfant qui pleure. Un coup de tendresse, au moment où on ne s'y attend pas, ça fait mal, nous confie la vache. On espère qu'un jour le chagrin va les déserter, que les humains ouvriront les yeux sur ceux qui les entourent, mais en ont-ils seulement le temps et l'occasion ? Le labeur quotidien épuise corps et âme. Le chat tigré est le seul témoin de l'activité du petit dernier qui, en dessinant, croque la désolation. L'adolescent a noirci des dizaines de feuilles dont certaines ont glissé à terre. Parmi les animaux et les visages difformes, une image me percute, celle d'un chat étique pelotonné sur un lit. Son décharnement m'ébranle. Ce chat-là est-il déjà mort ou en sursis ? Des corps de vache aux flancs creux et aux mamelles pendantes me frigorifient. La vieille chienne est représentée tête basse, se traînant loin derrière sa descendance. Pour renaître, il faut savoir mourir un peu. Les animaux sont témoins de cette tragédie grecque qui frappe de plein fouet le couple de paysans. Ce récit choral de haut vol qui mêle l'intime et le social en lice pour le prix Maya 2025 nous interroge sur notre lien aux animaux et notre façon de les considérer. Leur donner la parole, c'est leur accorder enfin l'occasion d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ce sont des êtres sentients. Certains en doutent encore. Qu'ils lisent corde ferme, l'émotion les submergera. Ils ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas. Parle-moi de T.C. Boyle aux éditions Grasset. Dans les années 80 aux États-Unis, une expérience révolutionne la science. Le retrait de la progéniture d'un animal élevé par des parents d'adoption d'une autre espèce. L'objectif, l'étude du développement et l'acquisition du langage. On appelle ça le cross-fostering. Sur la scène d'un show télévisé très en vue, Sam, un jeune chimpanzé, se déhanche en ululant tout en déclenchant l'hilarité. En couche-culotte et polo sans manches, il déboule, accompagné de Guy, son père adoptif, professeur charismatique et idéaliste. Aimé, jeune étudiante fusionnelle, à l'engagement total, à la limite du sacerdoce, prendra également part à l'incroyable gageure d'élever l'animal comme un humain. T.C. Boyle s'empare des tribulations de ce trio pas banal, non sans humour grinçant, et nous questionne. Devons-nous à tout prix établir le contact avec d'autres espèces ? Quelles sont les limites à ne pas dépasser ? L'intériorisation d'une part de l'éthos humain par les grands singes est vertigineuse. S'il est possible de parler à des membres d'une autre espèce, ce serait une conversation bilatérale, un échange de pensées, un nouveau niveau de conscience. Sam adore les pizzas, boit un verre de vin chaque soir, est habillé comme un garçon, avec ses converses aux pieds, regarde les dessins animés à la télé, feuillette le magazine Life, avachi sur son canapé, rit aux blagues et n'est pas le dernier à en faire. Le moment du dîner est synonyme de détente, il observe et imite. On lui lit des histoires le soir pour l'endormir près de sa peluche préférée. Il parle par signes en indiquant des mots et sirote de temps en temps un gin fizz avec Aimé. Il est crucial d'établir un lien fort dès le départ pour éviter tout débordement d'agressivité et de domination. La force physique de Sam à l'âge adulte sera redoutable. Capable de préméditer des actions et de tromper son monde, il fait exploser le point de vue cartésien selon lequel les animaux ne seraient que des machines biologiques, mues par l'instinct et incapables de penser, de planifier, d'anticiper des actions et leurs conséquences. Ses yeux parfaitement ronds, de la couleur des bâtons de cannelle, ses envies, ses caprices, ses bêtises, ses états d'âme, Sam est au centre de l'attention des deux humains qui s'exclament. C'est un projet qui promet de révolutionner notre conception de la conscience animale, et la nôtre aussi. Si l'humour rudimentaire du chimpanzé se limite à transformer un cheeseburger en frisbee, son haut niveau de conscience est révélé par l'interaction humoristique entre les deux espèces. quand le doute s'immisce. L'apprentissage de Sam est fondé sur son identification aux humains et il ne sait pas qu'il n'est pas humain. Tout le nœud du problème est là. La cohabitation s'avère de plus en plus délicate. L'animal sauvage, transi d'amour pour aimer, semble refouler toute notion de liberté. Il est son roc, il est sa vie. Elle l'a su le premier jour, quand son cœur à lui battait la chamade contre le sien. Un moment électrique. Aux yeux de la sphère scientifique pure et dure, Sam aurait plus de valeur au fond d'une cage pour servir à l'expérimentation animale dans la recherche biomédicale. Mais si un chimpanzé est comparable à un enfant de 3-4 ans en termes d'intellect et d'affect, n'est-ce pas cruel et obscène de le laisser croupir derrière les barreaux ? Dès que le vent de la révolte traverse son corps et ses pensées, Sam ressent du remords et un amour plus grand que lui. Son regard s'adoucit, il se prosterne, face contre terre, la paume des mains visible, bras écartés. Soumission devant ses deux gardiens humains. Pourtant, sous ses mimiques de clown charmeur, il est calculateur et capable de mentir, quelque chose de déformé et d'anormal. L'auteur nous ménage un suspense gratiné pour la suite de l'aventure. Soumis à de trop nombreuses sollicitations contraires à sa nature profonde, Sam va échouer et sera renvoyé dans un hangar pour servir de reproducteur et de cobaye en vue de tester de nouveaux médicaments. Une personne non humaine réduite au simple statut d'outil remplaçable et jetable. Comment quiconque pourrait-il être propriétaire de Sam ? Ce serait comme de l'esclavage. Est-ce qu'on n'a pas aboli l'esclavage ? C'est un animal. Non, c'est presque une personne, et tu le sais aussi bien que moi. Il parle, il pense, il nous aime. Entre deux mondes. De nombreuses références à l'illustre Jane Goodall émaillent ce roman traversé par un souffle totalement réjouissant et addictif. Un chapitre sur deux est consacré aux émotions propres du chimpanzé. Il est tellement humain, et en même temps, il ne l'est pas. Sa mission ébranle l'espèce humaine. Sam a du mal à vivre entre deux univers, piégé dans ce devenir hybride, conscient aussi de sa radicale altérité, de son immense solitude et son inépuisable désir de liberté. Il ne réfléchit ni ne se comporte comme un être humain, mais bien selon sa nature de chimpanzé. En miroir, Aimé est incapable de réaliser cette utopie de faire fusionner ces deux mondes. En lice pour le prix Maya 2025, Parle-moi met en scène l'exploration des frontières ténues entre notre espèce et celle de nos cousins. Au-delà de son art à bâtir scène et dialogue, Tissy Boyle s'est donné à Sam les contours d'une personnalité et d'une intériorité remarquables, tiraillée entre l'envie de se soumettre et celle d'incarner sa propre nature. Ce roman troublant nous parle de sensibilité, mais avant tout de conscience animale, tout en évitant habilement les écueils d'un trop grand anthropocentrisme, il soulève des dilemmes éthiques et pose la question suivante. Quelle différence existe-t-il entre un chimpanzé et un homme ? Une réponse un brin simpliste vient à l'esprit. Un chimpanzé est incapable de parler. Mais si le dit chimpanzé, éduqué dès sa naissance par un scientifique, apprend le langage des signes et parvient à communiquer avec son père adoptif à l'aide de signes, qui ne relève pas de l'imitation mais de la réflexion, n'est-il pas alors plus proche de l'humain que de l'animal ? Notre société occidentale, fondée sur une ontologie naturaliste, continue de considérer les animaux comme de simples cobayes. L'urgence est de changer de paradigme en reconsidérant notre relation aux autres animaux, des individus dotés d'intentions et de sentiments, aux facultés cognitives et émotionnelles exceptionnelles, qui charrient chaque jour leur lot de découvertes fascinantes. Les animaux nous parlent, à nous de savoir les écouter pour mieux respecter leur nature, sur leur propre terrain, pas le nôtre. L'ours des Eurockènes de Black Rain et J.U.R. aux éditions Rue du Monde. Rendez-vous en terre inconnue à la rencontre des Eurockènes, peuple des montagnes, éleveur de rennes, dans ce flamboyant album jeunesse en lice pour le prix Maya 2025. Au beau milieu d'une forêt primaire du nord de la Chine, entre les massifs du Grand et du Petit Khingan, à la lisière de la Mongolie et de la Russie, La nature est nourricière, abondante et foisonnante. Il importe donc d'en prélever le strict nécessaire avec respect et gratitude. Animaux et humains, tous logés à la même enseigne, appartiennent à la terre-mère. La talentueuse dessinatrice chinoise J.U.R., associée à Black Rain, écrivain renommé dans la littérature animalière, se sont immergés dans ces territoires naturels pour nous raconter avec panache l'histoire de la petite Aya qui ne rêve que d'une chose, voir un ours. Les autres habitants de la forêt, elle les connaît bien, mais le plantigrade, c'est une autre affaire. Il manque à son palmarès. L'espace d'une journée, le grand-père et la petite fille enfourchent leurs montures, traversant de grandioses paysages magnifiés par des illustrations chatoyantes. Les textes en petits caractères laissent la part belle à l'immensité des espaces. C'est la fin de l'été et les couleurs éclatent comme des bonbons en bouche. En cheminant à leur côté, nous sommes témoins d'une nature sauvage intacte, regorgeant de vie. Néanmoins fragile, il importe de la préserver en adoptant les bons gestes et une conscience aiguisée de notre environnement. C'est avant tout une histoire de transmission que l'on nous raconte. Il faut être discret, et sur son petit cheval, Aya, l'amie de la forêt, se sent de plus en plus chez elle dans cette immense cité. Le spectacle est partout. Des oiseaux migrateurs en plein voyage, une famille de lièvres, les quatre pattes en l'air sous le soleil, des chevreuils avec leur miroir blanc au derrière, un hibou grand-duc planant impérial, une famille renard à la couleur feu, un balai de libellules sur l'eau, des élans cachés dans des bouquets de fleurs rouges vifs. Tous observent en restant à portée de vue des humains. Les animaux ont leur raison pour ne pas trop s'approcher de nous. Respectons cette distance non de sécurité, mais de respect. À l'orée d'une pinède dégagée, l'affût pour voir le prédateur peut commencer. Enfin, comme une naissance soudaine et miraculeuse, une ombre sombre apparaît. Pour la première fois, Aya voit de vrais ours. Dans la grande forêt du Nord, les ours sont l'incarnation de la puissance. Ils sont imbattables. Une mère et ses trois petits batifolent sur un tas d'ordures laissées par des humains. Les détritus seront brûlés par un grand-père soucieux de transmettre les bonnes valeurs à sa petite fille. Il est essentiel que l'ours ne s'habitue pas à l'homme et à son odeur. C'est mieux pour tout le monde. Chez les Orokens, on respecte et on se tient à l'écart des bêtes. Le catalogue des éditions Rue du Monde propose des lectures qui interrogent et imaginent le monde. Cette immersion dans le quotidien d'une famille nomade, vivant de la chasse, de la pêche, du troc et du travail du cuir, est une invitation dépaysante et lumineuse au voyage. Selon une légende, une femelle ours, totem tribal des Orokens, aurait donné naissance à l'ancêtre de ce peuple animiste. Ce conte pour enfants raconte l'histoire de deux peuples, l'un est animal et l'autre humain. Les deux, se partageant le même territoire, doivent apprendre les codes d'une cohabitation respectueuse et harmonieuse. Et c'est bien ce sentiment de sérénité qui se dégage de la lecture. Et si nous apprenions à connaître et comprendre le monde animal sans le déranger, transmettre les bonnes valeurs très tôt est le seul terreau fertile qui vaille pour faire pousser de futures graines d'éclaireurs et de passeurs. En s'inspirant des croyances des peuples racines, maintenons l'équilibre de la biosphère, vitale à notre survie, et abandonnons notre arrogance qui nous éloigne de la vérité.